France Culture. h 13h30, les midis de culture. Marie Laborie.
Il va fermer les portes du Centre Pompidou avec son exposition, une immense monographie installée dans l'espace étonnant de la Bibliothèque publique d'information. L'artiste plasticien Wolfgang Tillmans sera mon invité à partir de 13h. Et comme d'habitude, honneur d'abord à l'exercice délicat mais nécessaire de la critique. Aujourd'hui on parle cinéma avec 28 ans plus tard, le troisième volet de la saga post-apocalyptique de Danny Boyle. Et puis Voyage au bord de la guerre, le documentaire d'Antonin Peret-Jatko. Vous écoutez les midis de culture, comme c'est émouvant. Et je vous présente les critiques du jour. Lucille Como, productrice du Regard Culturel, tous les matins à 8h55 sur France Culture. Bonjour.
Bonjour Marie.
Antoine Guillot, producteur de Plan Large, le samedi à 14h sur France Culture.
Bonjour.
Bonjour et bienvenue à tous les deux. Allez, on commence avec la grosse sortie de la semaine. Le réalisateur britannique Danny Boyle ressuscite sa série initiée en 2002 avec 28 jours plus tard. Cette fois, nous sommes donc 28 ans plus tard. Le virus qui transformait les gens en morts-vivants fous furieux est toujours là. Et une petite communauté de survivants s'est installée sur une île pour échapper à la contamination qui ravage le continent. C'est à une famille que ce troisième opus s'intéresse, famille où la mère, jouée par Jodie Comer, vue dans Killing Eve, souffre d'une maladie qui n'a rien à voir avec l'épidémie en cours. Danny Boyle, à qui on doit entre autres Trainspotting, Slumdog Millionaire ou Steve Jobs, a déjà annoncé une suite. On commence avec quelques mots pour nous donner envie ou pas. Lucille Como.
C'est très ennuyeux et c'est très moche.
Antoine Guillot.
Je pourrais dire la même chose, mais je dirais aussi que c'est un film assez idiot, mais à tel point que c'en est parfois fascinant.
Ah bah ça peut être intéressant, alors on va avoir des choses à se dire, mais d'abord on va écouter la bande-annonce de 28 ans plus tard.
Il y a eu tellement de morts. Contaminés. Et non contaminés.
C'est pour ça que notre village est si précieux.
Je le trouve un peu jeune, tu sais.
Il est prêt, je t'assure.
Dès que tu auras posé le pied hors de notre île, personne ne viendra te sauver.
Look at what's in front of you. 28 ans plus tard de Danny Boyle. Alors Lucille Como, qu'est-ce qu'il nous raconte de nouveau dans cette histoire ?
Pas grand-chose en fait. Il nous raconte pas grand-chose de nouveau. C'est un peu comme un vieux film de zombies qu'on aurait quand même déjà vu, y compris dans l'esthétique et dans même la plastique du zombie, mis dans une coque un peu sophistiquée. C'est-à-dire qu'il y a un prologue et un épilogue qui sont nettement plus intéressants que ce qui se passe au milieu, sauf que bon, ils durent pour l'un peut-être 5 minutes et pour l'autre 3 minutes 30, et qui relèvent d'une esthétique un peu punk, très violente.
À la Danny Boyle.
À la Danny Boyle, avec une espèce de substrat social. Donc en fait, on commence avec un groupe d'enfants complètement terrorisés dans une maison qui pourrait appartenir à la classe populaire ouvrière anglaise des années 80, qui regardent les Teletubbies mais en étant complètement terrifiés, et on sent que se passe quelque chose à côté qui pourrait être une grosse dispute conjugale, voire de la violence exercée par le père par la mère sur la mère. Ça s'arrête, et puis on passe à un régime ultra numérisé, donc vraiment les couleurs sont très très vertes, très très vives. De cette histoire donc de zombies. Alors j'ai pas vu les deux opus précédents, mais si je comprends bien, ça rejoue à peu près la même histoire sans tenir vraiment compte des précédents opus. Ça se passe donc dans cette Angleterre qui est complètement isolée puisque mise en quarantaine, donc apparemment tout le reste du monde ça va. Sauf en Angleterre, où il y a des zombies.
Jusque-là, c'est normal.
Sauf en Angleterre, où il y a des zombies. Et donc, à l'intérieur même de l'Angleterre, subsistent des petites communautés qui sont revenues à un âge ancien, donc ça pourrait être le 17e ou le 18e siècle, disons pré-industriel, où ils survivent avec des reliquats de leur époque précédente. En communauté, les femmes font la popote, les hommes apprennent à tirer à l'arc pour buter des zombies. Et surtout, les hommes, eux, sortent de temps en temps de cette île, rejoignent l'île principale par une espèce de système de digue qui n'est là que quand la marée est basse, et là se retrouve dans une nature, tout a été laissé à l'abandon, et là il y a des zombies. Donc, toute l'histoire tourne autour de ce personnage de Spike qui a 12 ans et dont ça va être la première sortie. Et c'est un récit d'initiation d'un petit garçon, donc le fait qu'il soit un garçon est très important, puisqu'il va sortir avec son père une première fois, et puis il va revenir, et à l'occasion de ce premier voyage, il va pas tant se rendre compte de ce qui se passe à l'extérieur, il va plutôt se rendre compte, et ça pourrait être intéressant, de ce qui se passe à l'intérieur de son foyer, à savoir qu'en effet, sa mère n'est pas malade de la maladie des zombies, ce qui pourrait aussi être intéressant, mais d'une autre maladie, et que peut-être, s'il sort avec elle, et non pas avec son père, il peut la soigner. Donc il y a un deuxième voyage dans la foulée, où il va, et c'est là la vraie aventure, avec sa mère, pour essayer de trouver un certain docteur qui existerait quelque part et qui est joué par Ralph Fiennes, dont l'arrivée est hallucinante. Enfin, c'est un poulet tandoori, Ralph Fiennes, littéralement. Il est chauve comme un pilon et il est entièrement orange parce qu'il est enduit d'iode. On ne comprend pas pourquoi. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on ne comprend pas dans ce film, y compris l'analogie qui est censée tout tenir ensemble, à savoir cette analogie qui aurait pu être posée par le prologue, à savoir que ce monde dans lequel ils évoluent, qui est un monde post-apocalyptique, est en quelque sorte la radicalisation de notre contexte à nous, de notre société patriarcale et des violences masculinistes qui s'y déroulent, puisque parmi les zombies, il y a, mais je vais laisser parler Antoine parce que je pense qu'il a très envie de parler de ça, il y a des zombies particuliers qui sont les alphas et qui sont donc évidemment uniquement des hommes, qui sont deux fois plus grands, deux fois plus gros, deux fois plus rapides et deux fois plus mortels que les autres. Encore une fois, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas dans la hiérarchie des zombies pourquoi ils sont apparus, mais qui sont donc le danger ultime à éviter. Donc le degré symbolique est assez clair, assez transparent et en même temps complètement con. C'est-à-dire que ça n'a pas, ça ne fait pas sens.
Le côté caricatural, c'est dans un film comme
oui,
ça,
mais
on
ça
s'y
pourrait,
attend.
Alors, toute la question est-ce que ce côté caricatural qui donne lieu évidemment à un effet burlesque, ça crée du burlesque, mais je pense que ce n'est pas du tout fait exprès. Donc c'est un burlesque qui n'est pas digéré, qui n'est pas thématisé par le film, qui lui est très sérieux, qui est un film d'action qui croit faire du suspense, nous faire pleurer sur le sort de cette mère malade et sur le sort de ce petit garçon qui se retrouve tout seul. Enfin, je pense que le film ne veut pas du tout nous faire rigoler de la situation.
Alors Antoine Guillot, vous avez trouvé ça fascinant carrément.
Oui, c'est fascinant de bêtises, mais de bêtises formelles avant tout. Mais c'est pas nouveau, c'est le problème du cinéma de Danny Boyle depuis le début, même depuis Trainspotting. C'est-à-dire c'est un cinéaste de l'effet qui fabrique des effets sans cesse, sans jamais réfléchir une seconde à ce que peut provoquer l'effet. Et c'est comme s'il s'ennuyait en fait très vite dans ce qu'il filmait. Dès qu'il fait un plan, il s'ennuie, donc il doit changer très vite, non seulement de plan. Par exemple, dans ce prologue, il y a une scène hallucinante où un père curé donne une croix à son fils, il faut 5 plans pour donner la croix. C'est un geste vraiment anodin complètement, qui est surdécoupé en permanence, et c'est comme ça tout au long du film. C'est-à-dire, dès qu'il pose sa caméra quelque part, il dit « Oulala, mais qu'est-ce qu'on s'ennuie, vite, je vais la mettre, mais où puis-je la mettre de façon complètement incongrue ?» Donc on va la mettre dans un coin en hauteur, et puis après au ras du sol, enfin tous les endroits possibles, sans que ça ne fasse jamais sens. Ou alors on va faire des bons vieux effets provoques, par exemple on va vous vomir dessus.
Il y a des arrêts sur image sur voilà. Toutes les gerbes de sang possibles.
Par exemple, chaque fois qu'on tue un de ces zombies, qui ne sont pas vraiment des zombies, mais ça on va y revenir, ça donne lieu à un arrêt sur image, une image très graphique comme ça, comme
une BD,
quelqu'un qui vient de la BD, quelque chose qui vient de la BD, ou du jeu vidéo, ou de on ne sait trop où. C'est-à-dire que très rapidement, on a l'œil épuisé par ce qu'on voit, et ça met tout à niveau, on se fiche absolument de tout ce qui se passe. À partir de là, on peut se dire, mais qu'est-ce qu'il essaye de nous raconter ? Alors, il y a les analogies, effectivement, parce que la pudeur de Lucille Como a omis de préciser que ces zombies non seulement sont nus, mais que les mâles alpha, comme sont les mâles alpha, ont un sgeg énorme, et d'ailleurs ils se reproduisent maintenant. Il y a une scène d'accouchement de zombies complètement, là encore, qui est tellement bête qu'on en rit encore. Mais qu'est-ce que voudrait raconter le film au bout du compte ? On est quand même dans une insularité au carré, c'est-à-dire qu'ils sont dans une île sur une île. Quand ils vont sur l'île, ils ont l'impression d'être sur le continent. Effectivement, l'île est coupée du monde. Non seulement ça, mais il y a des patrouilles de toute la communauté européenne autour de l'île pour éviter que ces Anglais viennent propager leur maladie sur le vrai continent, hein, le nôtre, là où nous sommes. C'est évidemment un film sur le Brexit. Enfin, ça ne parle que de ça, sur comment ce fantasme de l'Angleterre de retourner à ce qu'elle était, mais ce qu'elle était quand a abouti à cette séparation du reste de l'Europe et presque du reste du monde. Et donc, il y a plusieurs archaïsmes qui sont présents dans, dans le film. Donc, on a une société qui est un peu comme celle des années 50, mais qui est aussi une société de l'éco-responsabilité montrée comme un cauchemar. C'est-à-dire que sans arrêt, il y a des petits panneaux qui vous disent « Attention, économisez l'eau, on n'en a pas beaucoup. Prenez garde à vos outils, à vos vêtements, parce que quand même, ça s'use. » Et pour nous faire bien comprendre que c'est aussi quelque chose encore plus archaïque, qui serait, vous parlez gentiment du 17e ou du 18e, mais le film marque très clairement, en utilisant des images de vieux films anglais à la Ivanhoé, qu'on est réellement revenu dans un monde médiéval. Donc, si on n'avait pas compris, ils utilisent des flèches, on nous met des plans de soldats moyenâgeux qui utilisent des flèches aussi. Alors, bon, tout ça était une sorte de gloubi-boulga de tout et n'importe quoi. Pour nous raconter quoi, en gros, c'est que les mères, c'est bien, mais pour devenir un homme, il faut tuer la mère. Ce qui est l'originalité du film, c'est-à-dire on n'est plus à tuer le père, parce que le père, de toute façon, est complètement falot, comme tous les personnages joués par Aaron Taylor Johnson dans sa filmographie.
Mais c'est bien, il en faut des hommes falots dans les films.
Qui est l'incarnation même du falot, mais je ne critique pas, je constate. Et en revanche, et une fois qu'on a évacué le Brexit, il y a aussi la question de la reine mère, de la reine d'Angleterre. Plusieurs fois, on nous montre le portrait, parce que ça se passe à une époque dans une Angleterre qui a été coupée du monde il y a 28 ans, donc on a encore des portraits de la reine Elisabeth. Et en gros, la question c'est, ben, quand il y a une mère qui perd la boule, comme c'était le cas, paix à son âme, de la reine Elisabeth, parce qu'elle était vieille, ben, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'euthanasier. Et on a deux meurtres de mère dans le film, mais qui sont montrés comme des choses complètement normales pour survivre en société.
Alors, mis à part l'euthanasie des mères...
Ah ben, c'est un thème original.
C'est un thème original, c'est vrai, mais sur le papier comme ça, on peut dire, pour un film voilà, qui s'adresse à un grand public, ça pourrait pas être si mal en vrai. Donc qu'est-ce qui rate? Pourquoi ça fonctionne pas?
Le problème, c'est que ces idées, là par exemple, en écoutant Antoine, en effet, je me dis ça pourrait être très intéressant.
Bah oui.
C'est marrant ce truc de l'Angleterre, ce recours en effet à un folklore de l'Angleterre d'avant. Donc par exemple, il y a une fête organisée pour le retour du fils.
Qui est le moment le plus terrifiant du film peut-être.
Qui est le moment le plus terrifiant du film et qui est, en effet, il est rentré chez lui, donc a priori ça va, puis finalement ça va pas du tout. Et c'est un moment de fête un peu paillard, avec des musiques folkloriques d'un ancien temps, et c'est là aussi où on voit d'ailleurs le portrait de la reine accroché au mur. C'est intéressant, ça pourrait être une sorte de matière pour renouveler quelque chose du film, alors je sais pas si c'est des zombies, mais de mort-vivant ou post-apocalyptique ou que sais-je, mais ça échoue parce que je pense que à la fois Danny Boyle et son scénariste, qui est donc Alex Garland, n'ont pas grand-chose à raconter de ce que c'est que ou la fin du monde, ou le renouvellement d'une société. Et ça, on le sait, parce que Alex Garland, il a fait un des films les pires, je pense, de cette année, qui s'appelait Civil War, c'était peut-être l'année dernière, qui était un film qui racontait, qui en plus s'inspirait aussi d'une situation contextuellement identifiable, c'est-à-dire l'Amérique de Trump, et qui dépeignait une sorte de guerre civile qui coupait les États-Unis en plein de morceaux, avec une photographe de guerre qui allait au devant des fronts divers aux États-Unis et qui était aussi une espèce d'apocalypse un peu molle, film mouillé avec des effets en permanence. C'était extrêmement pénible et surtout ça ne racontait rien. On en sortait en se disant c'est incroyable, il y a plutôt des bonnes idées, il y a plutôt des belles images par ailleurs, parce que pour le coup, c'était pas un film laid comme l'est le film de Danny Boyle, mais ça ne dit rien, sur rien. Donc c'est difficile de trouver un véritable intérêt, parce que par ailleurs, l'action n'est pas intéressante non plus. Vous parliez tout à l'heure des effets qui sont ajoutés pour rien, les changements de cadre et tout. Il y a aussi un truc que fait Danny Boyle beaucoup, et moi ça m'obsédait, donc je voyais plus que ça, au bout d'un moment c'était extrêmement pénible, c'est qu'il nous montre toujours, il avance, il va en avant de ses personnages. Donc il nous montre toujours à l'avance, quelques secondes avant que les personnages y soient, l'endroit où ils vont. Ce qui est un contresens absolu quand on veut faire un film d'aventure, qui est en plus un film qui aurait pu ressembler à un jeu vidéo, c'est-à-dire on est collé à un personnage, on tourne la tête avec lui, hop, on n'a pas vu le zombie, mais nous on voit tout le temps le zombie avant.
Bah oui,
donc
raté,
aucun
là,
intérêt. Oui, on sait qu'il va courir, on sait qu'il va aller plus vite que l'autre. Bon bah voilà.
Antoine Guillaume.
Oui, bah, quand on parle toujours de zombies, je crois, je précisais.
Ah oui, alors qu'est-ce que
c'est? Ce sont pas vraiment des zombies.
Danny Boyle ne veut pas qu'on dise zombies.
On est dans ce néo-zombie qui est apparu au début des années 2000, où on en avait marre des zombies à la Romero qui avançaient très lentement, donc on s'est mis à les faire courir très vite. Mais en faisant ça, on a perdu non seulement toute la charge à la fois symbolique, métaphysique, politique de ce qu'est le zombie, que c'est cette espèce de masse qui n'a plus de pensée, mais qui est d'autant plus terrifiante qu'elle fait masse. Là, s'est montré en fait comme des sortes de loups qui courent très vite, qui sont là encore nus, donc il y a quelque chose de très archaïque, il y a la peur de l'Homo sapiens d'être dévoré par Néandertal ou je ne sais quoi, mais ce n'est plus opérant du tout. C'est-à-dire qu'on peut les tuer sans problème, par exemple, jamais on ne le voit comme quelqu'un qui a été humain ou comme ce que nous pourrions devenir si nous tombions malades, c'est juste l'altérité absolue, c'est pour ça que ça devient un rite initiatique, y compris de tirer sur des, là encore, idées crétines, jamais on ne comprend d'où c'est possible que ça sorte sur ces zombies obèses qui rampent.
Oui, parce qu'il y en a certains qui sont lents, mais pareil, on ne sait pas pourquoi.
Qui mangent des vers de terre, qu'ils appellent les géants, et le grand rite initiatique, c'est pendant qu'ils se traînent péniblement par terre, de leur décocher une flèche dans la gorge pour montrer qu'on est un homme. Bon, une fois qu'on montre ça, où est l'enjeu émotionnel ? C'est-à-dire qu'on ne tue qu'une grosse masse qui mange des vers. Les choses qui arrivent en vous hurlant dessus, bon ben voilà, on les tue, il n'y a aucun problème. Alors après, il a une idée, mais il la trouve tellement géniale qu'il nous la resserre trois fois. C'est-à-dire que la grande spécialité du mal alpha, c'est de vous arracher la colonne vertébrale avec la tête.
C'est vrai que ça, la première fois qu'on le voit, c'est pas mal.
Ce qui donne une espèce
bon
de...
appétit.
Ça s'aboutit à une sorte de squelette de ténia.
Un trophée avec un socle, quoi.
Spermatozoïde géante, on sait pas trop quoi. Vrai. Mais alors, il trouve ça tellement génial qu'il nous le fait trois fois. Ouais. Voilà, j'étais déçu, j'attendais la quatrième fois sur le gamin, peut-être, mais non.
On va s'arrêter là, sur une envie de meurtre d'enfant, bravo. 28 ans plus tard de Tanny Boyle. Allez, c'est le moment de votre coup de cœur, Antoine Guillaume.
Oui, alors, il se trouve que Lucie Comeau en a déjà parlé ce matin, donc je vais essayer
d'être surveiller tout ce que vous dites.
Au dixième aussi brillant qu'elle, sur ce film très étrange qui s'appelle Un rêve plus long que la nuit. J'ai découvert, mais j'ai ignoré complètement, que Niki de Saint-Phalle, prochainement hommagé au Grand Palais dans une exposition du Centre Pompidou hors les murs, avait aussi fait du cinéma. Elle a fait deux films, un qui avait été co-réalisé, qui s'appelait Daddy, où elle revenait de façon plus ou moins métaphorique sur des choses qu'elle a beaucoup racontées par la suite, qui est l'inceste qu'elle a subi enfant. Et là, ce film est très très étrange, Un rêve plus long que la nuit. C'est une sorte de... D'abord, c'est tourné en 16 mm, comme le film dont on va parler tout à l'heure. Ça tient à la fois de la réunion de copains, parce que c'est un film qui est fait non seulement, il y a Tinguely encore dans la ferme, il y a toute leur bande, Daniel Spoerry et autres, qui jouent une sorte de carnavalesque Alice au Pays des Merveilles, qui est déjà assez carnavalesque en soi, sur l'histoire d'une petite fille qui voudrait grandir trop vite, qui voudrait être adulte tout de suite, et qui va réaliser ce que c'est que le monde des adultes, qui n'est un monde qui n'est fait que de guerre, d'exploitation, de domination sexuelle et autres. Et c'est c'est presque indescriptible, en fait, tellement il y a du carton-pâte dedans, mais il y a aussi des œuvres d'art en permanence. C'est tourné dans le cyclope de Tinguely et Niki de Saint-Phalle, la maison incroyable qu'ils avaient construite à Milly-la-Forêt. Mmh. Et... eh ben c'est dingo, voilà. C'est sans arrêt, quand on regarde ça, on se demande mais est-ce que c'est de l'art, du lard ou du cochon ? Et c'est assez fascinant en même temps, parce qu'on imagine, moi, tout au long où je voyais ce film, j'essayais d'imaginer les conditions de réalisation autour, c'est-à-dire cette bande d'artistes qui se réunit en disant, bah, tiens, on va expliciter les rapports, par exemple, sur le viol comme arme de guerre, ce dont on parle beaucoup, et ben c'est figuré par des soudards avec des braquemars géants, décidément.
C'est la thématique du jour.
C'est le thème de l'émission.
C'est les sexes démesurés des hommes.
Qui explosent en pétards et en confettis. Vous avez des défilés de chars qui affrontent des phallus géants. Donc c'est quelque chose qu'on ne peut voir qu'en 1976. On imagine très mal quelqu'un faire ça aujourd'hui. Et c'est assez, à la fois, là encore, fascinant et perturbant, bricolé et sublime en même temps.
Un rêve plus long que la nuit de Niki de Saint-Phalle, qui est donc sorti en restauré, c'est ça, version restaurée ?
Oui, enfin version restaurée. Je ne sais même pas si le film avait eu une exploitation à l'époque.
À l'écran, sur écran, quoi. Ouais.
C'est sorti au cinéma, mais ouais. Peut-être juste sur
non,
un
non,
ou deux
écrans. Non, mais c'est surgi du temps, comme ça. Ça ressemble aussi à des films un peu douteux de Jean Rollin qui se faisaient à l'époque, parce que c'est très sexuel aussi. Donc c'est une curiosité assez improbable, mais vraiment passionnante.
12h, 13h30. Les midis de culture. Marie Laborie.
On enchaîne avec Voyage au bord de la guerre, ce documentaire d'Antonin Peredjatko. Peredjatko, on le connaît plus pour ses fictions, La fille du 14 juillet ou La loi de la jungle, gentiment loufoque et politique. Mais il a tourné beaucoup de courts et moyens métrages, et souvent des docs, caméra 16 mm au point. Pour ce film qui sort aujourd'hui, c'est une caméra Bolex qui l'a embarqué dans un road movie en Ukraine, au bord de la guerre donc. L'outil implique de tourner des séquences de 3 minutes maximum et d'enregistrer le son. Par ailleurs, bref, un procédé qui crée une distance forcément avec l'urgence du terrain qu'il filme. Donnez-moi un avis rapide, Antoine Guillaume.
Ben, c'est un film d'actualité puisqu'il concerne la guerre en Ukraine, mais qui a l'intelligence d'être inactuel.
Lucille Comeau.
Oui, moi, je pense que précisément, il n'arrive ni à être inactuel ni à être actuel, et que toute la question de la distance est la question. Quoi.
Alors,
on
va écouter la bande-annonce de Voyage au bord de la guerre.
Je prends une caméra 16 mm. On met 3 minutes de pellicule. Je prends un micro que ma fille va tester.
Essaye, micro.
Nous allons traverser l'Europe pour entrer dans un pays en guerre. À la douane, 16 km de queue. Nous arrivons à Lviv, en Ukraine, à 80 km de la frontière polonaise. La guerre est partout. Sur les tablettes de chocolat, les affiches, le papier toilette, les pâtes d'amande.
Je suis Ella Yevtushenko.
Ella a publié un recueil de poètes ukrainiens. Il y a ce passage. Tout ce qu'il te reste maintenant, c'est une photo de famille avec des trous à la place des visages. Le soir, la vie continue. Comme l'alcool, des bidons d'essence apparaissent. Je me demande qui a eu assez d'humour pour écrire Boom. Au mur d'en face. Dans ce récit de guerre, c'est souvent l'envie de filmer le printemps qui l'emporte.
Voyage au bord de la guerre d'Antonin Peredjatko. Antoine Guillaume, qu'est-ce que ça produit justement ce procédé qu'il utilise, ce 16 mm, ce son-là qu'on a entendu très étrange et pas très vieillot quelque part?
Ben voilà, c'est un son qui a l'air assez suranné comme ça. C'est-à-dire qu'en regardant le film, on se dit mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Où on a l'impression que c'est une sorte de Chris Marker des années 50-60 dans le ton qui va parler de la guerre d'aujourd'hui. Et de fait, c'est un projet extrêmement formaliste. Au début, on l'entend dire dans son projet pourquoi il va utiliser cette caméra 16 mm. Le son est volontairement un peu crachoteux comme ça. Et le ton est à la fois très suranné dans le commentaire, ironique, poétique, humoristique. Et tout d'un coup, il se prend des choses qu'il n'avait peut-être pas prévu de rencontrer. C'est un film qui s'appelle Voyage au bord de la guerre et qui précisément se passe au bord. En fait, ce sont deux voyages. Le premier a été fait au printemps 2022, deux mois après le début de la guerre à Lviv, donc à un endroit qui est assez reculé du front. Et puis 9 mois plus tard, il va à Kiev. Et là, tout d'un coup, il est pas complètement dedans, puisqu'il n'est pas là pour filmer des actes de guerre ou des bombes qui tombent, mais il va sans cesse chercher des traces, en fait. La première motivation qui est assez vite évacuée, c'est de retourner sur les traces de son propre grand-père, qui était parti d'Ukraine 100 ans auparavant, pendant la grande famine, l'Holodomor, déclenchée par Staline. Et il va se rendre compte, évidemment, tout de suite, très vite, sur place, que c'est une fausse bonne idée, puisqu'il ne reste plus rien de cette époque. Et puis, tout d'un coup, il rencontre des gens, surtout. Et c'est ces gens-là qu'il a envie de filmer, qui ont tous comme point commun d'être des artistes. La poétesse qu'on a entendue tout à l'heure, il y aura un directeur de théâtre qui racontera comment il a échappé aux soldats soviétiques. Et je dis soviétiques parce que c'est réellement des soldats soviétiques qui arrivent. Et là encore, c'est quelque chose de très de monstrueusement suranné, parce qu'il raconte comment, quand il était dans sa banlieue de Kiev, à Boutcha, je crois, où ont lieu ces massacres, ce qu'il a vu arriver, c'était des soldats qui sortaient tout droit, mais de 1970-1980, qui réclamaient des VHS. Est-ce que vous n'avez pas des VHS à regarder? C'est-à-dire, c'est de se dire qu'ils sont restés à cet âge-là, qu'ils sont surpris de découvrir des toilettes à l'intérieur des appartements en disant, mais ça doit sentir monstrueusement mauvais quand vous faites vos besoins dans vos appartements, et qu'ils sont là pour voler des robinets, des fenêtres. C'est-à-dire, quelque chose, c'est presque les hordes de contaminés qu'on a dans le film de Danny Boyle qui leur tombent dessus. Et, c'est précisément cette distance-là qui est à la fois temporelle et distance par rapport à ce qui s'est passé et qu'il ne peut pas aller filmer, qu'il ne veut sans doute pas aller filmer, je trouve qu'il rend ce film passionnant parce qu'il y a cette béance, ces trous dont on a entendu parler aussi, qui est imagé régulièrement sur ces images d'enfants sur lesquels on poinçonne des trous à la place des visages, et le film est plein de trous et c'est sans doute ces trous-là qui sont les plus passionnants.
Lucile Comeau, on a peu de temps, je suis désolée, on a passé trop de temps sur les zombies tout à l'heure.
Oui, moi je pense que Peret Jatko veut refaire quelque chose qu'il avait fait sur les gilets jaunes et qui fonctionnait, je pense, mieux. C'est-à-dire appliquer ce mode opérationnel entre la fantaisie et quelque chose de très nouvelle vague, donc de très monté et de très potentiellement donc troué sur un événement qu'on connaît et l'arracher au tout venant de l'image médiatique. C'est ça qu'il veut faire. Moi je pense que le problème, c'est qu'il ne le fait pas vraiment et qu'il a quand même probablement une ambition de dire quelque chose de l'Ukraine aujourd'hui et qu'il n'arrive pas à complètement s'éloigner de l'esthétique du reportage. Et d'ailleurs, il a beau faire du 16 mm, le son a beau être un peu désynchronisé, de fait, le régime principal de ce qu'on voit est ce qu'on a vu beaucoup, c'est-à-dire cadré sur des enfants avec leur couverture, des écoles, le témoignage face caméra d'artistes, ce qu'on a aussi beaucoup vu et beaucoup entendu parce que beaucoup de médias se sont intéressés à cette question. Donc il échoue, à mon avis, à créer quelque chose de nouveau sur cette guerre-là, parce que la forme qu'il utilise ne suffit pas. Je pense que juste la texture de l'image, ça suffit pas à renouveler quelque chose, à renouveler un regard. Et je me suis demandé s'il n'y avait pas une certaine forme de... pas d'opportunisme, parce que là, pour le coup, ce serait méchant, mais il y a une forme de désinvolture dans son projet. Je suis pas sûre qu'il sache exactement où il va. Cette histoire, par exemple, d'aller sur les pas de son grand-père et puis finalement d'abandonner l'idée, c'est à peu près le cas de toutes ses idées dans le film. Il nous dit qu'il va aller voir des artistes et parler surtout des artistes, mais en fait, il le fait pas vraiment. De la même manière que ces images où on trouve les photos et où on enlève les visages des gens, on comprend pas vraiment à quoi ça sert. Il y a une sorte d'inabouti dans ce film qui ne dure qu'une heure. Hein. Mm-hmm. Et vous voyez, là, on en a quand même pas mal parlé. Il y a énormément de choses. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de motifs, il y a beaucoup d'idées. Par ailleurs, la voix off qu'on a entendue, moi, je la trouve assez pénible. C'est pas du tout la texture de la voix. Ça, à la limite, ça peut être assez intéressant et ça met en effet quelque chose à distance. Mais ce qu'il dit, sur le fond, c'est très grandiloquent. Il y a vraiment un lyrisme sur les atrocités de la guerre, avec des mots qu'on a entendus 50 000 fois. Et là, je pense qu'il y a aussi un échec de l'écriture. Il aurait peut-être fallu écrire quelque chose d'autre pour accompagner ces images et vraiment les sortir de la gang, disons, de l'image majoritaire. Quoi.
Oui, la difficulté de s'inscrire dans un monde où l'image est partout, le commentaire aussi partout. Je suis désolée, j'aurais adoré qu'on y passe plus de temps, mais c'est un peu tard maintenant. Voyage au bord de la guerre d'Antonin Peret Jatko qui sort aujourd'hui et il sera votre invité.
Samedi, on en saura plus.
Voilà, on en saura plus samedi. Lucile Comeau, vous, on vous retrouve dès demain matin à 8h55 pour votre regard culturel sur France Culture. Toutes les références, toutes les infos sont sur la page des Midi de Culture.